Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Aujourd'hui et toute cette semaine, nous partageons avec vous la vie et la pensée de ce très grand moine, le starète Serge, qui rayonnait d'amour et d'humilité. Il est en directe filiation avec la tradition des pères du désert. Aujourd'hui, le starète Serge va nous parler de la mémoire de la mort et de la patience comme vertus qui peuvent éloigner de nous les démons. La mémoire de la mort occupe une place prépondérante. Cette pratique ascétique traditionnelle consiste à avoir sans cesse conscience non seulement que l'on mourra un jour, mais que l'on est susceptible de mourir le jour même, que la journée que l'on vit est peut-être l'ultime moment de notre vie. Le starète va jusqu'à dire, en se recommandant des pères, que toute journée qui n'a pas été vécue dans un tel état d'esprit est une journée perdue. Cette pratique n'a évidemment pas pour but d'amener le chrétien à mener une vie funèbre, triste et lugubre, ni de le paralyser par la crainte de la mort, ni de le rendre inactif par l'idée que la mort rend inutile toutes nos œuvres et vain tous nos projets. Si les pères et le starète lui-même la mettent en valeur, ce qu'elle possède pour la vie spirituelle, de nombreux avantages qu'ils ont eux-mêmes expérimentés. Elle est certes tournée vers l'avenir, elle aide à se tenir prêt constamment à entrer dans l'autre monde, à ne pas se laisser surprendre par la mort qui vient comme un voleur dans la nuit, mais à s'y préparer avec un sentiment de pénitence afin d'être trouvé sans reproche et sans honte devant le redoutable tribunal du Christ. Le voyageur qui attend un train qu'il conduira dans un pays étranger, qui sait que le train peut arriver d'un moment à l'autre et qui se tient prêt à y monter. Voici encore une image de cette attente de la mort. Cette pratique est un moyen de suivre constamment le précepte du Christ, « Veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » La perspective de la mort, qui est celle aussi du jugement, aide le fidèle à se préserver du péché. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais, dit l'Ecclésiastique. Dans la conscience de la parole du Seigneur, tel je te trouverai, tel je te jugerai. La mémoire de la mort nous fait veiller à être à chaque instant en paix avec Dieu et avec notre prochain. Elle nous aide à mieux vivre. Elle nous incite à faire constamment le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et nous donne pour cela le discernement nécessaire. Elle nous conduit en conséquence à nous détacher des choses qui passent. Et est donc un moyen du détachement précédemment évoqué, mais aussi et surtout, elle nous amène, corrélativement, à nous concentrer sur l'essentiel, sur l'unique nécessaire. Elle donne aux fidèles, dans la conscience, que le temps se fait court, un sentiment d'urgence spirituelle, qui l'aide à ne pas dissiper son temps, mais à le sauver, comme dit l'apôtre. Le précepte, souvent rappelé par le Starets, de vivre chaque jour comme s'il était le dernier, loin de nous amener à penser que chaque jour est sans importance, doit nous aider au contraire à mesurer l'importance et la valeur non seulement de chaque jour, mais de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde, à les vivre comme des moments essentiels, uniques et irremplaçables, et donc à les occuper spirituellement d'une manière plus intense et plus pleine. C'est le mode chrétien du carpe diem. À la question qu'on lui pose, « Mais aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour », le Starets répond qu'il est également vrai que pour Dieu, un jour a autant d'importance que 1000 ans. Le vrai détachement ne consiste pas à se dire que rien n'a d'importance. Il faut au contraire prendre conscience que tout a de l'importance et que la moindre action de notre vie a un sens par rapport à notre salut. La mémoire de la mort nous incite donc à être plus actifs dans la recherche de notre salut. Elle dynamise profondément notre vie spirituelle et nous aide à éviter la paresse et le découragement. Parfois, au lieu de dire qu'il faut vivre chaque jour comme s'il était le dernier, le Starets dit qu'il faut vivre chaque jour comme s'il était le seul. Par l'application stricte de ce conseil, chaque jour peut ainsi devenir un concentré de vie et revêtir l'importance de notre vie tout entière. Par la mémoire de la mort, la grisaille de la vie quotidienne se dissipe. Il n'y a plus dans notre vie de jours banals, de jours ordinaires. Il faut, dit le Starets, vivre chaque jour comme un jour important.
Le Seigneur aime la ville qu'il a fondée sur les saintes montagnes.
Oh.
Parlons à présent de la patience. À l'un de ses disciples, qui lui fait part du dégoût et de la souffrance que lui inspirent certaines tâches de son travail professionnel, le Starès répond que cela est tout à fait normal, car nos activités en ce monde, hormis les activités proprement spirituelles, ne correspondent pas à notre vraie nature et sont liées aux conditions du monde déchu, et que le moyen de les supporter est la patience. Il lui fait remarquer que les pères du désert, lorsqu'ils étaient sans occupation, se cherchaient souvent des travaux idiots pour pouvoir, par eux, s'exercer à la patience. Il y en avait même un qui faisait et défaisait et refaisait sans cesse la même corbeille en palme tressée. La patience est aussi, avec la pénitence et la prière, l'un des instruments dont nous disposons pour mener le combat invisible, permanent, contre toutes les tentations et les difficultés qui sont placées sur notre chemin par nos ennemis spirituels. La patience est aussi le moyen d'accomplir chaque jour notre tâche spirituelle, alors même que nous n'en tirons encore aucune jouissance spirituelle, mais qu'au contraire, les obstacles dus aux attaques des démons et les peines se multiplient. C'est grâce à elle, à cette patience, que sans nous décourager, nous pouvons porter le joug que nous a donné le Christ. Il y a de l'orgueil à vouloir rapidement parvenir au but. C'est pourquoi le Starets dit que la patience est la fille de l'humilité. La patience n'est pas, comme nous pourrions le supposer, un état passif dans lequel nous attendrions une amélioration de notre situation par un changement de circonstances extérieures indépendant de notre volonté. Mais au contraire, la patience est une attitude active, de combat, qui va de pair avec la prière. Qu'en est-il à présent de la paix comme vertu? Être en paix avec Dieu et avec le prochain paraît un préalable indispensable à toute activité spirituelle, particulièrement à la prière et à la communion eucharistique. Si tel n'est pas le cas, une démarche de pénitence et de réconciliation s'impose. La véritable paix n'est pas le calme intérieur, l'absence de troubles des facultés, mais un état spirituel qui résulte d'un don de Dieu. Ce n'est pas la paix du monde qui est instable et peu sûre, mais c'est la paix qui vient d'en haut, que nous demandons dans les prières de la liturgie. Cette paix, nous devons l'aimer et la rechercher coûte que coûte, car elle est un grand bien spirituel. En ce qui concerne l'humilité, elle est la base de la vie spirituelle. En même temps qu'avec l'amour, elle est son sommet. C'est le Christ lui-même qui nous a donné l'exemple de l'humilité. Étant Dieu, il s'est abaissé en devenant homme, et il a dit humblement « Je vais vers mon Dieu ». L'humilité a donc son fondement et sa source dans le Christ. Dieu s'oppose à l'orgueil, mais à l'humilité, il donne sa grâce. Saint Isaac le Syrien disait qu'on ne peut aller à Dieu qu'à travers l'humilité. L'humilité est avec l'amour une voie privilégiée de salut. C'est le salut en raccourci. Il faut rechercher l'humilité et non pas la sainteté, car la sainteté sans humilité n'est qu'une prétention. Les anges qui sont tombés et sont devenus des démons avaient la perfection puisqu'ils étaient des anges. Mais ils n'avaient pas l'humilité. C'est pourquoi, n'ayant que la perfection, ils sont devenus des démons. Le même sort nous guette si nous cherchons la sainteté sans chercher préalablement l'humilité. Seul importe ce que Dieu pense de notre attitude. En ce sens, il faut être humble pour Dieu et non pour les hommes. Qu'en est-il à présent de l'amour du prochain? Il est encore appelé charité, et c'est un amour spirituel. Il implique la référence et la relation à Dieu. On doit aimer le prochain en Dieu et par Dieu. On doit aussi l'aimer pour Dieu ou à cause de Dieu et non pour soi-même. La charité sans Dieu, dit le Starets, est une charité égoïste. C'est par la prière que la charité peut ne pas être égoïste et s'exercer selon Dieu, c'est-à-dire à la fois en lui, par lui et pour lui. Cette charité, cet amour du prochain, comporte plusieurs dimensions et inclut plusieurs attitudes. Tout d'abord, elle exclut tout jugement du prochain. Il est important que dans nos rapports avec les autres, ceux-ci sentent que nous ne les jugeons pas. Elle implique donc la tolérance. Il faut être intraitable en ce qui concerne le respect de la vérité et du bien, mais se montrer d'une tolérance extrême envers les hommes qui se trompent et pêchent. Elle implique aussi, cette charité, elle implique l'humilité. Cette charité exclut que l'on ressente une quelconque supériorité envers les autres, du fait par exemple que nous sommes chrétiens et spirituels alors qu'eux ne le sont pas. En tant que chrétiens, nous possédons la vérité parce que nous possédons le Christ qui a dit « Je suis la vérité ». Nous ne devons pas en tirer un sentiment de gloire, mais de responsabilité. Lorsque nous voyons les péchés des autres, loin de les en accuser, de leur en garder rancune ou simplement de les juger, nous devons nous en sentir nous-mêmes responsables. Chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, disait le Starets Osim dans Les Frères Karamazov. Surtout, la charité implique l'attention à l'autre, la compassion, la miséricorde et la bienveillance. Avant tout, l'attention au prochain. Il faut être vis-à-vis d'autrui aux aguets, dans une attitude d'attention spirituelle permanente, prête en permanence à les aider. Nous devons manifester de la bienveillance à tous les hommes. Tous les hommes sont dans une situation difficile, tous dans le besoin spirituel, tous sont malades. Il n'y a pas un seul qui soit en bonne santé spirituelle. Même si les hommes se sentent bien, ils sont malades par rapport à ce qu'ils devraient être selon leur destin éternel. À tout cela s'ajoutent les malheurs de la vie. La lecture des journaux nous révèle quotidiennement le calvaire de l'humanité souffrante. Ceci doit nous faire prendre conscience que tous les hommes sont malheureux et ont besoin de notre compassion et de notre bienveillance. Toutes les personnes que nous rencontrons doivent ressentir que nous avons de la sympathie pour elles, que nous leur voulons du bien, que nous cherchons à les aider, bref, que nous les aimons. La charité implique la reconnaissance de la valeur absolue de chaque personne. Grand connaisseur de Dostoïevski, le Starets reconnaît à celui-ci le mérite d'avoir montré que le destin du moindre des hommes est à la fois important et tragique et mérite toute notre attention et notre compassion. Il rappelle que le Christ s'est fait homme pour sauver le dernier des hommes. Il souligne que les hommes valent toujours plus qu'ils ne nous paraissent valoir et que nous devons les estimer plus qu'ils ne nous paraissent estimables. Nous devons avoir du souci pour chaque personne, vouloir l'aider et vouloir son salut. Il faut cependant ne jamais s'imposer. Il faut éviter de donner aux autres des leçons. Cela agace les autres et finit toujours par se retourner contre nous. Il faut même se garder de donner de simples conseils si l'on ne nous en demande pas. Lorsqu'on agit en faveur des autres, il faut toujours le faire avec une grande humilité. Mais la prière nous aide dans cette charité. La prière nous permet d'entrer plus profondément en contact et en relation avec les autres. Elle nous permet de mieux les comprendre et d'être plus sensibles à leurs besoins Si la prière n'est pas présente ou si elle est insuffisante, nous restons à la superficie des êtres. Par la prière, nous acquérons même une connaissance des autres qui va au-delà de la connaissance naturelle. Saint Séraphim de Sarov, qui n'a cessé de prier pour ses parents, a pu, loin et sans nouvelles d'eux, suivre toute leur vie. C'est par la prière que nous pouvons manifester notre amour et apporter notre aide non seulement aux vivants, mais aussi aux défunts, envers lesquels nous ne pouvons plus agir d'une autre manière. La prière pour les défunts occupait une place très importante dans la vie du Staret Serge lui-même, comme dans la vie de tous les grands spirituels. Elle est la marque d'une charité désintéressée. En résumé, le Staret enseigne que c'est dans la prière, pour le prochain, que se trouve la source de tout ce qui concerne la charité envers le prochain. À notre prochain rendez-vous, nous approcherons de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.